Eh bien, bonjour à tous. Merci. À Pentecôte, c'est difficile. On se dit, bon, c'est un week-end férié, les gens, est-ce qu'ils vont venir, est-ce qu'ils vont partir? Et ils ont raison de faire les deux. Mais voilà, voilà. Voilà, tous les frères ont pu, les sœurs ont pu communier. Voilà, donc on va continuer ce matin dans notre voyage dans l'évangile de Marc. Et ce matin, on va s'arrêter sur un passage qui commence dans le chapitre 2 et qui continue dans le chapitre 3. Et ce matin, c'est intéressant qu'on ait parlé de l'écoute de la loi du Seigneur. Puisqu'ici, on va parler de Jésus et le sabbat. Et on va voir que les pharisiens écoutaient la parole d'une manière assez particulière. En tout cas, Jésus va les remettre en question ce matin. Alors, je vous propose qu'on puisse prendre ce passage. Et simplement pour le contexte, donc je rappelle, nous sommes au début de l'évangile de Marc. Et nous sommes au début de l'affirmation de la véritable identité de Jésus comme fils de l'homme, c'est-à-dire le Messie, puisque ça fait référence à Daniel. L'expression fils de l'homme. Et cette affirmation de l'identité de Jésus est en train de provoquer deux choses. Premièrement, un engouement grandissant d'une partie de la population. Et deuxièmement, une contestation aussi grandissante. Dans le contexte immédiat de ce qu'on va lire, du passage en Marc 2, Jésus vient de guérir et de pardonner les péchés d'un paralytique, ce qu'on a vu avec Colin il y a quelques temps, de répondre à des questions des pharisiens concernant le jeûne, ce qu'on a vu il y a 15 jours avec Philippe. Et nous voilà sur des questions concernant le sabbat. Je prends la lecture, Marc 2, verset 23. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé tout en marchant. Ses disciples se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, « Regarde, pourquoi font-ils ce qu'il n'est pas permis pendant le sabbat ?» Jésus leur répondit, n'avez-vous jamais lu ce qu'a fait David lorsqu'il a été dans le besoin et qu'il a eu faim, lui et ses compagnons? Il est entré dans la maison de Dieu, à l'époque du grand prêtre Abiathar, à manger les pains consacrés qu'il n'est permis qu'aux prêtres de manger et en a même donné à ses compagnons. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est le Seigneur même du sabbat. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main paralysée. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Jésus dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Lève-toi là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors il promena sur eux un regard de colère. Et peiné de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Tends ta main. » Il la tendit, et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et tinrent aussitôt conseil avec les Hérodiens sur les moyens de le faire mourir. Jésus se retira au bord du lac avec ses disciples. Une foule nombreuse le suivit, venue de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, de l'autre côté du Jourdain et des environs de Tyr et de Sidon. Cette foule vint à lui, car elle avait appris tout ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque, afin de ne pas être écrasé par la foule. En effet, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Fin de la lecture. Alors, ce matin, on a un beau programme devant nous. Et ce que je vous propose, c'est qu'après un bref rappel sur le sabbat, je vous propose qu'on s'arrête sur cet épisode du champ de blé, puis par cet épisode de la synagogue, pour en déduire deux applications pour nous, et de conclure par les attitudes des groupes présents dans ce texte. Alors, tout d'abord, un petit rappel sur le sabbat, dont nous a d'ailleurs parlé Pierre très récemment. On voit par exemple en Exode 31, au verset 13, que le non-respect du sabbat est puni de mort. C'est pas un petit commandement. Et la pratique du sabbat est importante car elle est instaurée et pratiquée par Dieu lors de la création. Le sabbat, c'est le quatrième des 10 commandements et il concerne, donc il y a deux groupes de commandements dans les 10 commandements. Les 4 premiers concernent l'identité de Dieu et les 6 qui suivent concernent nos relations les uns avec les autres. Et le sabbat, c'est le 4e des commandements, donc concerne même l'identité et l'honneur même de Dieu et l'honneur que l'on doit à Dieu. C'est un symbole de l'alliance et de la confiance du peuple envers Dieu. Choisir de s'arrêter de travailler pendant les moissons est une preuve de confiance énorme pour un agriculteur et particulièrement à l'époque au milieu de tous ces peuples. Le sabbat, c'est donc une abstention volontaire afin d'honorer Dieu et passer du temps à l'écouter. Alors, nous voilà dans les champs de blé, et on voit des pharisiens qui suivent Jésus jusque dans les champs de blé. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais les pharisiens avaient ajouté au commandement du sabbat toute une liste de déclinaisons de comment pratiquer le sabbat. Et entre autres, il était dit qu'il était interdit de se déplacer, à plus de 900 mètres de son domicile. Et là, on voit des pharisiens au milieu de champs de blé. Bon, bref, j'arrête là. En fait, ils le suivent partout pour guetter un faux pas et pouvoir l'accuser. Alors au verset 24, l'accusation, elle est à peine déguisée. « Tes disciples font ce qui n'est pas permis. » Quand ils disent « tes », c'est qu'ils accusent et remettent en question le maître des disciples. Jésus est donc accusé de ne pas respecter le sabbat. Ok. Si on regarde un peu plus en profondeur, le fait d'arracher quelques épis est autorisé par la loi. On peut lire ça en Deutéronome 23, verset 26. C'est la moisson à des fins commerciales qui est considérée comme un travail qui est donc interdite. Et ça, on voit ça en Exode 34, verset 21. Donc, il n'y a pas de violation de la loi de la part des disciples à ce moment-là. Par contre, les traditions rabbiniques avaient ajouté que le fait de frotter du blé dans les mains était considéré comme de la moisson. Et c'est là où on a un problème, où ils ont un problème. Alors la réponse de Jésus. Alors c'est intéressant que Jésus ne va pas rentrer dans ce débat légaliste. Mais pour autant, il va se référer aux Écritures en utilisant deux arguments. D'ailleurs, une petite parenthèse, il commence par un petit pic sympathique. « N'avez-vous jamais lu ?» Question posée à des spécialistes de la loi. Alors le premier argument que Jésus va utiliser, c'est un argument historique fondé sur les textes qui fait référence à David et Abiathar, qu'on a vu il y a quelque temps en étude biblique, en 1 Samuel 21. David et Abiathar qui sont une autorité pour les pharisiens et qui montrent qu'il peut y avoir des situations où la loi n'est pas respectée pour des principes supérieurs. Mais le problème est que cela va en contradiction avec les ajouts rabbiniques, les traditions. Et la question sous-jacente posée par Jésus, c'est qui a le plus d'autorité ? David ou les rabbins ? Les rabbins ou Dieu qui a instauré le sabbat ? Le deuxième argument utilisé par Jésus est un argument créationnel sur le sens même du sabbat. Le sabbat est un outil donné par Dieu à l'homme pour se reposer en s'appuyant sur Dieu pour sa subsistance. Le sabbat n'est donc pas un joug, mais une bénédiction pour l'homme. Ainsi, Jésus va rappeler le véritable sens et souligner les incohérences de leurs pratiques religieuses de la loi. Le principe spirituel derrière le sabbat n'est pas l'abstention pour l'abstention, mais le principe est d'honorer Dieu par l'abstention. Et là, on voit que la pratique du principe a été remplacée petit à petit par le respect de la pratique. Je répète, la pratique du principe a été remplacée petit à petit par le respect de la pratique. C'est-à-dire qu'ils ont remplacé de vivre le repos de Dieu, la liberté de Dieu dans nos vies a été remplacée par un joug pesant de règles. Au verset 28, Jésus va encore plus loin en affirmant son identité divine comme maître du sabbat. Et d'ailleurs, il va dire que Jésus est même le maître du sabbat. Et ce petit mot « même » fait référence à un verset qu'on a vu un petit peu plus haut, au verset 10, où il est dit que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Jésus nous dit donc à ce moment-là qu'il est capable de pardonner les péchés et qu'il est aussi le maître du sabbat et de la loi. Si on réfléchit plus globalement, l'homme, dont je fais partie, dont vous faites partie, a tendance à transformer les bonnes choses données par Dieu en esclavage. Ici, c'est la loi, mais on peut citer la nourriture, la sexualité, les biens matériels, tout ce que l'homme, tout ce que Dieu a donné à l'homme a pu ou peut être transformé en esclavage. Mais la bonne nouvelle de ce texte, c'est que Jésus est toujours prêt à nous remettre les choses dans le bon ordre, à redonner le sens originel et bienfaisant à chacun des domaines de nos vies. Passons au passage suivant dans la synagogue. Il est parlé d'un homme qui a une main desséchée. Voilà, dans certaines versions, c'est une main paralysée. Et là, Jésus va poser une question profonde. Est-il permis ? Il réutilise l'expression utilisée par les spécialistes de la loi un petit peu plus tôt et il les renvoie à leurs études sur une question d'herméneutique, c'est-à-dire d'interprétation des Écritures. Il les prend à leur propre piège et les renvoie sur une question morale, éthique et théologique. Faire du bien ou faire du mal ? Sauver ou tuer ? Sauver, parce que quelque part, opérer une guérison le jour du sabbat, c'est sauver le jour du sabbat. Tuer, parce que quand on a la possibilité de guérir et qu'on ne guérit pas le jour du sabbat, potentiellement on tue la personne. Jésus va utiliser un procédé littéraire très commun au Moyen-Orient, c'est qu'il va exagérer le comparatif pour souligner l'intention contraire des pharisiens à l'idée originale de Dieu pour le sabbat. Les pharisiens, ici, comme à d'autres endroits, ont un problème de confusion lié à la perte de sens des choses qui engendre l'inversion des priorités. Ça devient fou. Ils font l'inverse de ce qui était prévu. Le sabbat, tout comme le jeûne un peu plus tôt dans le texte, et plus généralement la loi, pour les pharisiens, est devenue Dieu à la place de Dieu. La loi est devenue Dieu à la place de Dieu. Et en même temps, par cette question, j'ai l'impression que Jésus leur tend une perche pour leur donner l'occasion de réaliser, de changer d'attitude. Mais ils préfèrent garder le silence. Alors, quelle application pour nous? La première, c'est de réfléchir avec quoi je construis mon salut. Est-ce que c'est sur une liste de choses à faire ou à ne pas faire? Et ce texte donc nous fait réfléchir à notre rapport à la loi et donc à la grâce. Notre cœur d'être humain peut avoir tendance à se rassurer en suivant une liste de choses à faire ou ne pas faire. Et cela peut nous faire perdre aussi à nous le véritable sens des choses. Alors j'aimerais vous raconter une histoire pour illustrer ça. Peut-être que vous retiendrez juste l'histoire. C'est l'histoire du gigot. Vous connaissez l'histoire du gigot? Il y en a certains qui connaissent l'histoire du gigot. Alors c'est un couple, un jeune couple marié qui vont se disputer sur la meilleure manière de cuire le gigot. Et en fait, la femme soutient mordicus que la meilleure manière, le gigot est le meilleur quand il est coupé en deux avant d'être mis dans le four. Parce que sa mère faisait comme ça. Et c'est comme ça qu'il est le meilleur. Et ça a été prouvé dans la famille depuis très très longtemps. Et le mari dit, allons voir ta mère. Donc ils vont voir la mère. Et ils demandent à la mère, mais alors pourquoi vous coupez le gigot comme ça? Parce que c'est comme ça qu'il est le meilleur. Puis ma mère faisait comme ça. Donc ils vont voir la grand-mère. Et ils demandent à la grand-mère, mais alors, pourquoi vous coupez le gigot? Parce que mon four était trop petit. Et c'est ce qui arrive quand on perd le sens des choses que l'on fait. Ce texte nous invite aussi à réfléchir au joug qu'on impose aux autres, peut-être à nos enfants, peut-être à ceux qui sont en chemin et qui rejoignent l'Église aujourd'hui, ou à ceux qui nous posent des questions dans notre voisinage, dans notre travail, et aussi au joug que je peux bien souvent m'imposer à moi-même. Est-ce que le joug que tu t'imposes est lourd et exténuant, sans réel sens? Si c'est ton cas ce matin, cela devrait être un signal que tu fais fausse route. Matthieu 11, verset 27, c'est Jésus qui parle. « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école. » Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. Le joug de Jésus-Christ est léger, car notre Maître est doux et humble de cœur. Quand on croule sous les yakas, sous les faucons, le joug de Jésus-Christ est léger. Notre Maître est doux. Il ne nous violente pas. Il est humble. Il n'est pas au-dessus de nous à nous donner des ordres. Il faut que tu fasses ci. T'as plus qu'à faire ça. Il est à nos côtés, compatissant, portant la charge à notre place. Aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Et le don du Saint-Esprit en chaque croyant, pour nous consoler, nous guider, nous murmurer ses instructions comme un souffle doux et léger. Quelle voie tu suis dans ta vie chrétienne? Une voie tyrannique ou une voie douce et apaisante? J'ai découvert dernièrement des beaux versets dans Ésaïe 30 au verset 20. Car le Seigneur te donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'angoisse. Oui, celui qui t'enseigne ne se cachera plus. Tu verras de tes yeux le maître qui t'instruit. Et au verset 21. Alors tu entendras dire derrière toi, c'est ici le chemin, suis-le. Là, va à droite. Là, va à gauche. C'est ce que Jésus, c'est ce que la voix du Seigneur peut faire dans nos vies. Osons et sachons poser des questions au Seigneur et faire silence pour écouter ses réponses. Osons et sachons poser des questions au Seigneur et faire silence pour écouter ses réponses et entendre sa voix douce et apaisante. Dans ce texte, Jésus remet le sens et se place au-dessus de toute chose. Il nous invite à revenir au sens des choses et à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est notre besoin d'un sauveur pour notre salut, mais aussi pour notre marche chrétienne. Et on en arrive à notre deuxième application. Jésus-Christ nous rend libres. Et d'après ces textes, Jésus-Christ nous libère de nos maladies, oui, de nos peurs, de nos paralysies, parfois spirituelles, de nos raisonnements, c'était le cas du sabbat, de notre aveuglement, de nos erreurs, de notre péché, de notre culture, de nos anciennes manières de penser, de nos traditions. Il veut tout balayer. Jésus veut renouveler nos pensées pour renverser... Ah, c'est un peu tôt, mais c'est pas grave. Peut renverser... C'est ma faute. Jésus veut renouveler nos pensées pour renverser ce que nous avons inversé. Jésus, comme on le voit très bien dans ce passage sur le sabbat, veut venir nous interpeller sur notre manière de penser. Y a-t-il un raisonnement aujourd'hui dans ta vie qui n'honore pas Dieu? Ce que Paul va appeler une forteresse de pensée, une paralysie spirituelle. Quelle habitude, quel raisonnement est plus grand que Jésus dans ma vie? Deux questions qu'on peut se poser ce matin. Et là, j'aimerais vous parler de l'histoire de l'éléphant. Après le gigot, c'est l'éléphant. Certains d'entre vous la connaissent, mais elle est tellement, tellement adaptée. Un jour, un homme passait près d'un groupe d'éléphants. Il s'arrêta tout à coup, confus par le fait que ces énormes créatures étaient détenues par une petite corde attachée à la patte avant. Aucune chaîne, pas de cage. Il était évident que ces éléphants de 5 tonnes pouvaient à tout moment, avec un simple coup de patte, se détacher et retrouver leur liberté. Mais pour une raison quelconque, ils restaient attachés. Il vit un dresseur à proximité et lui demanda pourquoi ces animaux se tenaient là sans tenter de partir. « Eh bien, dit le dresseur, quand ils sont très jeunes et beaucoup plus petits, nous utilisons la même taille de corde pour les attacher et à cet âge, cette corde suffit à les tenir. Ils essaient quelquefois d'arracher la corde pour s'échapper, mais cela ne fonctionne pas. Quand ils grandissent, ils sont conditionnés à croire que tirer sur la corde ne sert à rien. L'éléphant ne tentera jamais de s'échapper. Car dans sa tête, c'est quelque chose d'impossible. » Cette image de l'éléphant détenu dans une prison imaginaire ne peut nous laisser insensibles. C'est horrible d'imaginer que durant toute sa vie, un animal puisse se soumettre à des conditions qui en réalité n'existent plus. Qu'il puisse se sentir emprisonné alors qu'en réalité, il est totalement libre. D'ailleurs, on peut parfois observer le comportement d'animaux sauvages relâchés dans la nature après une longue période enfermés dans une cage, et qui gardent des habitudes similaires à leur période de captivité, faire des allers-retours sur des courtes distances, etc., etc. Et pourtant, les humains ont des attitudes très similaires et conservent des croyances du passé qui les empêchent d'avancer dans la direction qu'ils souhaitent. Tout comme l'éléphant, nous basons très souvent notre raisonnement sur des croyances que notre entourage nous a répétées encore et encore, ou sur d'anciennes expériences vécues, sans nous permettre de reconfirmer de temps à autre ce qu'il en est réellement, sans se donner une nouvelle chance. L'éléphant et la cordelette. Quelle cordelette te retient ce matin ? La culpabilité destructrice, le doute, la peur, ton passé, une relation malfaisante. La liste peut être longue. Ce texte nous dit que Jésus peut t'en libérer. C'est lui qui a créé les éléphants et leur puissance, tout comme il t'a créé personnellement. Et il ne s'est pas arrêté là, puisqu'il t'a donné accès à la puissance de la résurrection qui vient de l'œuvre de rachat que Jésus a opérée à la croix et veut t'offrir encore ce matin. Avant de conclure, j'aimerais m'arrêter sur l'attitude des différentes personnes de ce texte. Et la première, c'est l'attitude de Jésus. Dans ce texte, on le voit avec les pharisiens, il est clair, répond aux contradictions par la parole. Intéressant, hein ? On le souligne, mais encore une fois, il se réfère à la parole. Il redonne du sens, guérit, fait du bien, libère, est indigné par le péché, questionne les gens, veut sauver, veut remettre en question. Et il remet les choses à la bonne place, le sabbat à sa place, la loi à sa place, le salut à sa place. Il nous montre par là même qu'il est un bon maître, doux et humble de cœur, digne de notre confiance. Et face à l'attitude de Jésus, cela provoque trois attitudes différentes. La première, c'est l'attitude des pharisiens, qui sont dans la confusion, qui font silence, qui sont suspicieux, accusateurs, qui veulent le faire mourir, qui complotent avec les Hérodiens. On a le droit de faire la liaison maintenant. Les Hérodiens. C'est à l'époque un parti politique proche de Rome, dont le chef est Hérode, et qui... comment on va dire ça, qui sont les alliés de Rome. Donc quelque part, qui sont les ennemis des pharisiens, qui sont eux indépendantistes, qui veulent se séparer du joug de Rome. Donc, ce petit mot ici, le fait qu'ils complotent avec leurs ennemis jurés, ça prouve jusqu'où ils sont prêts à aller pour faire mourir Jésus. Les ennemis d'hier se rapprochent face à Jésus. La deuxième attitude qu'on voit, c'est celle des esprits impurs. Les esprits impurs. Les pharisiens complotent et les esprits impurs se prosternent et témoignent de l'identité de Jésus. Quelle opposition ! Mais Jésus leur interdit de parler parce que, un, il a l'autorité sur eux. Deux, il préfère que cela soit ses actes et ses enseignements qui témoignent de son identité plutôt que des démons. Troisième attitude, l'attitude des foules de gens ordinaires et désœuvrés qui se jettent sur Jésus parce qu'ils ont appris ce que Jésus faisait. Alors il y a des gens de Galilée, de Judée, de Jérusalem, des Juifs, sûrement chargés par le joug des pharisiens. Il y a des gens d'Idumée et de l'autre côté du Jourdain. L'Idumée, les habitants d'Idumée sont les Édomites, les descendants d'Ésaü, tous les peuples extérieurs à la promesse. Il y a les villes de Tyr et de Sidon, qui sont des villes non juives. Cela me fait beaucoup réfléchir. Moi qui ai appris ce qu'avait fait Jésus. Toi qui as appris ce qu'a fait Jésus. Est-ce que notre réaction est de nous jeter sur Jésus dans notre culte personnel? Pour conclure, j'aimerais vous faire part d'un petit témoignage personnel. Dernièrement, j'ai eu l'opportunité de témoigner dans mon travail de ma foi en Jésus-Christ à une personne de culture catholique qui n'osait pas prier pour elle. J'ai invité la personne qui souhaitait commencer à lire la Bible de considérer que ce Jésus des évangiles, dont elle pouvait lire les actions, les enseignements, les pensées, était le même qu'elle pouvait prier aujourd'hui. C'est ce qu'elle a fait. Et beaucoup de choses ont commencé à se passer. Si on résume, Jésus est celui qui renverse nos inversions et nous libère de nos paralysies spirituelles. Jésus est celui qui nous redonne le vrai sens et peut renouveler nos vies et nos raisonnements. Jésus est celui qui veut nous donner aussi sa perspective pour nos vies. Parfois, je ne sais pas vous, mais moi je regarde ma vie avec mes lunettes qui voient jusqu'au bout de leurs pieds. Parfois, il est bon de faire confiance au Seigneur qui nous voit à bord d'un hélicoptère. Donc il sait ce qui est devant nous, ce qui était derrière nous. Et il sait nous accompagner. Le mot de la fin est pour Albert Einstein. Si vous voulez vivre une vie heureuse, attachez-la à un but et non pas à des personnes ou des choses. Le but de tout chrétien est de connaître Dieu. Et comme le dit le site, tout pour sa gloire, voir comme Dieu voit pour vivre comme Dieu veut. Découvrons ce que Dieu fait et puissions-nous nous jeter sur Jésus dans nos cultes personnels à l'écoute de sa voix douce et apaisante. Prions. Père Céleste, merci encore pour ta parole. Merci pour tes enseignements. Merci parce que tu as quelque chose à nous dire ce matin. Merci encore pour ta puissance. Merci encore pour ce bon maître que tu es, pour la voix qui est dans nos cœurs. Merci pour le don du Saint-Esprit qui nous accompagne jour après jour. Et je te prie pour mes frères et sœurs que tu puisses accompagner chacun dans son quotidien, mais aussi dans sa vie personnelle. Seigneur, tu vois les obstacles, les montagnes et les vallées, Seigneur, qui sont devant chacun de nous. Et Seigneur, nous te remercions parce que nous savons que tu seras à nos côtés. Merci encore de nous bénir en tant qu'Église et que là aussi tu puisses nous précéder en toutes choses. En ton nom. Amen. Je fais les annonces. Okay. Je vous propose de passer aux annonces. Change de casquette.